Que ma vie te glorifie. C'est un peu un chant piège que nous a proposé de chanter Luc. Un chant piège quand on le chante comme ça, de bon cœur, sans savoir ce que va dire le prédicateur, sans savoir sur quoi il veut interpeller par rapport à la parole de Dieu. Et je trouve que c'est exactement le thème, le point de cette prédication. Ces paroles qu'on peut prononcer, et où Jésus nous dit ensuite, vraiment. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Luc, chapitre 9. À partir du verset 57. Donc Luc 9, 57, et on va aller jusqu'au premier verset du chapitre 10. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Celui-ci répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il lui dit : « Laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Un autre dit : « Je suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce texte de prédication et ce découpage nous est proposé par notre fédération d'Église. Nous avions en juin ce que nous avons appelé un dimanche d'évocation, un dimanche où nous voulions, toutes les églises, réfléchir au service, à la réponse qu'on peut faire pour servir Dieu. Clairement, le dimanche d'évocation, c'est l'occasion de se poser la question de la vocation pastorale pour devenir pasteur, d'être envoyé comme missionnaire, d'entrer dans un conseil d'église, de devenir ancien, ou, je le crois aussi, de servir dans n'importe quel service de l'église, et ils sont nombreux. Je trouvais intéressant de prendre ce texte, même si le jour J, nous avions un invité qui en avait choisi un autre. J'avais trouvé intéressant de reprendre ce texte ensemble. Et le découpage inhabituel, en associant le premier verset du chapitre 10 avec les versets qui viennent avant, était proposé ainsi, proposé dans les notes qui nous étaient envoyées. Et ce découpage présente déjà un premier intérêt, parce qu'il fait apparaître un enchaînement auquel on ne pense pas toujours, qu'on n'a pas toujours en tête quand on lit la Bible par petits bouts en suivant les sous-titres qui nous sont proposés dans nos Bibles. Ces sous-titres sont très pratiques pour retrouver notre chemin, pour retrouver des passages, mais ces sous-titres ne font pas partie du texte biblique. Les chapitres et les versets eux-mêmes ne font pas partie du texte. Le texte que l'on a, qui nous est donné, il est long et continu, difficile de s'y repérer, donc on propose ce découpage, mais il est totalement arbitraire. Donc pourquoi pas aujourd'hui changer de découpage ? Ce découpage permet de voir à la fois que Jésus envoie, mais en même temps qu'il y a des exigences. Et des exigences particulièrement fortes. Il n'envoie pas comme ça des volontaires de bonne volonté, il envoie à ses conditions. Et je pense que si l'Évangile l'a placé dans cet ordre, c'est pour donner à tous ceux qui s'engagent une sorte d'avertissement. Est-ce que vous savez bien ce à quoi vous vous engagez ? Alors regardons un peu les échanges de Jésus avec ces différentes personnes sollicitées pour le service. Le premier tout d'abord, le premier c'est merveilleux, il a envie de suivre Jésus. Il a cette parole enthousiaste, « Je te suivrai partout où tu iras ». Il nous apparaît comme ça, spontané. Mais il n'a peut-être pas mesuré tout ce qu'il dit. Parce que Jésus, lui, il n'est pas aussi enthousiaste que lui. Il ne lui dit pas non. Par contre, il le met en garde. Il lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Suivre Jésus, c'est chouette, mais ce n'est pas facile. Jésus sent que cet homme n'a pas tout mesuré. Et il doit savoir que quand on suit Jésus, on est dans la précarité. C'est pas tant le manque de confort, c'est plutôt un manque de sécurité. Quand on suit Jésus, on n'a pas de terrier où aller se cacher quand ça tourne mal. On n'a pas de nid où aller s'enfuir quand ça barde en bas au sol. Quand on veut servir Jésus, on n'a nulle part où rentrer à la fin de la journée pour couper. Quand on suit Jésus, c'est tout le temps. C'est toujours. C'est ce qu'attend Jésus, c'est être disponible pour lui. Suivre Jésus, c'est être un pèlerin sur la terre, sans attache, sans sécurité. Et ça, c'est l'inverse de notre vie sur terre. De la grande course à la sécurité de notre société. Cette course où on nous dit qu'il faut devenir propriétaire pour s'établir. Où on nous invite à penser à notre retraite, à capitaliser pour notre retraite dès la fin de nos études. Où on veut nous assurer pour tous les risques possibles et imaginables. Jésus, c'est tout l'inverse. Richard Gélin écrit à ce sujet, « Au regard des valeurs des hommes, non, il n'y a pas d'avantage à suivre Jésus. Suivre Jésus, répondre à son appel, c'est accepter une certaine fragilité, de ne plus faire partie de cette grande compétition du monde. » Pour la sécurité. Voilà ce que le premier n'avait pas mesuré et que Jésus veut lui placer devant les yeux pour qu'il mesure la réponse qu'il donne. Passons au deuxième. Le deuxième, c'est Jésus lui-même qui l'appelle. On peut se dire que s'il va lui-même vers quelqu'un, on sait vers qui il va, et ça devrait bien se passer. Mais cet homme a une objection. Il a son père à enterrer. Un père à enterrer quand même. C'est une bonne raison. C'est imparable. La loi demande d'honorer son père. Et pourtant, la réponse de Jésus, c'est une douche froide. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. Une telle réponse interpelle par rapport à la situation. Parce que la loi demande de s'occuper des parents. Comment Jésus peut dire un truc pareil? Alors, on imagine, peut-être que le père n'est pas mort et juste à enterrer, et que cet homme lui demande un délai pour s'occuper de lui et que finalement il ne veut pas tout à fait le suivre. Certains qui réfléchissent à ce texte disent même peut-être qu'il est en bonne santé, ce père, et que la réponse de cet homme, c'est « Tant que je suis sous l'autorité de mon père, je ne peux pas décider tout seul, je dois attendre qu'il meure pour prendre des décisions pour moi. » Ces pistes sont intéressantes, mais en vérité, on n'en sait rien. Et ce n'est pas toujours heureux de vouloir faire parler la Bible dans ses silences, de vouloir lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. Là, ce qu'elle dit, ce qu'elle nous laisse, c'est une parole provocante de Jésus, une parole choc. Elle est provocante, mais derrière cette provocation, elle dit des choses vraies qu'il nous faut entendre. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle appelle des gens qui sont vivants des morts. Ceux qui ne suivent pas Jésus sont morts. Et marcher à la suite de Jésus, c'est marcher dans la vie. C'est marcher pour la vie. Et celui qui reste sur le côté de cette marche, il passe à côté de la vie. Celui qui suit Jésus doit se mettre en chemin et ne pas rester sur le côté avec ceux qui sont morts. Il doit prendre ses distances avec eux, quand bien même serait-il de sa propre famille. Suivre Jésus, c'est faire une rupture avec sa vie sociale, avec la vie sociale, avec les règles de cette vie, avec ses priorités, avec sa bienséance. Quand Jésus appelle quelqu'un à le suivre, c'est pour se mettre au service de la vie, c'est pas pour s'occuper de l'existence des humains. Ce n'est pas pour faire ronronner cette machine qu'est la société humaine. Certains essayent de mettre en avant ce rôle des religions, de créer du lien, de fédérer dans la société. Ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. J'entendais en Richard Gélin dire en formation que une année d'église sans enterrement et sans mariage, c'est anecdotique. Alors qu'une année sans baptême, ça interroge l'Église sur son témoignage. Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour célébrer des mariages et des enterrements, mais pour annoncer le règne, pour faire des disciples, pour les baptiser et pour les enseigner. L'appel de Jésus n'est pas à s'occuper de l'existence des hommes, il est au service de la vie. Passons au troisième homme. Avec lui, on a à nouveau quelqu'un qui vient vers Jésus. Je te suivrai, mais laisse-moi d'abord. Cet homme, il n'a pas besoin d'entendre l'appel de Jésus, il y répond. Et je crois que c'est le cas de tout le monde. Quand on a lu un peu la Bible, on sait que Jésus appelle. Quand Jésus nous regarde, qu'il plonge son regard dans le nôtre, il n'y a pas besoin de parler. On sait ce qu'il dit. Il appelle. Et c'est un appel qu'on ne peut pas refuser. Et en même temps, c'est difficile d'y aller. Et cet homme-là, il pose une condition. Et il lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. » Une réponse au futur, je te suivrai plus tard avec un « mais ». Mais un « oui, mais », ce n'est pas un « oui ». Et c'est ce que Jésus lui fait remarquer. Quand tu marches en avant pour ta vie, quand tu choisis quelqu'un avec qui te marier, quand tu choisis un nouvel emploi, est-ce qu'avant de donner ta réponse, de prendre la décision, tu vas dire « attends, je dois d'abord dire au revoir à mes parents ». Aller au service de Jésus, personne n'est à l'abri d'y aller en traînant les pieds. Et le prédicateur est au courant, il y est confronté. Ce n'est pas toujours facile de servir sur la durée. Et on peut perdre sa joie au service, facilement, là, perdre de vue cette joie. Je me souviens... J'avais 18 ans quand j'ai dit à Dieu, je ferai tout ce que tu veux, mais pas pasteur. Mais si Jésus voulait que je sois pasteur, une telle réponse, c'est un non. Jésus veut une réponse sans réserve, un oui sans mais. On n'est pas dans une civilisation très agricole. Mais quand on passe la charrue, si on regarde en arrière, on dévie. Le sillon n'est pas droit. On peut faire l'expérience avec ce qu'on a. Si vous vous retournez quand vous faites du vélo, le résultat ne sera pas génial. Paul écrivait aux Philippiens, oubliant ce qui est en arrière. Et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Suivre Jésus, c'est être tourné résolument vers l'avant. Voici donc les échanges de Jésus avec ces différentes personnes qui sont intéressées, mais qui ne savent pas s'ils y vont, s'ils y vont pas, qui ne savent pas quoi répondre à son appel. Et on peut voir que Jésus n'est pas dans une démarche de séduction à vouloir des partisans, à ramasser le plus grand nombre de sympathisants possible. Et encore une fois, c'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui nous dirigent, des hommes politiques qui essayent de séduire en permanence et à court terme, pour avoir la sympathie et peut-être un vote. On a toutes sortes de causes, et certaines sont très justes, qui essayent d'avoir les pétitions les plus énormes possibles en étant prêts à ramasser sur Internet des clics qui ne coûtent pas grand-chose, des clics un peu anonymes. Et nous-mêmes, nous y sommes confrontés. Ceux qui sont sur Internet, connaissent Facebook, où un des buts est d'avoir le maximum d'amis, amis entre guillemets. Jésus, il n'est pas dans cette démarche d'avoir des gens qui sont plutôt d'accord, de loin. Il veut des personnes qui ont mesuré ce qui les attend et qui décident en connaissance de cause. Il veut des personnes prêtes à le suivre partout, sans se soucier de leur sécurité. Des personnes que rien ne retient, même pas ceux qui les aiment. Des personnes qui avancent sans poser de conditions. L'exigence est haute, et à la lecture de ce texte, on se demande combien ont suivi Jésus. Et pourtant, au premier verset du chapitre suivant, juste après, Jésus envoie, et en envoie 72 ou 70, ça dépend des traductions, qu'il a choisi. Et je trouve ça vraiment surprenant. Ça semblait mal parti, mais il envoie. Personne ne semblait avoir pleinement mesuré. Personne ne peut dire un oui qui vraiment tienne la route. Et Jésus, malgré ça, envoie. Et je crois qu'il y a là une grâce. De voir Jésus qui n'attend pas que nous soyons parfaits pour accepter ce que nous avons à lui offrir. Je vais relire ce verset 1. Jésus en envoya 72 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Et j'aimerais relever trois caractéristiques de la façon dont se passe cet envoi. La première chose, c'est dans toute ville et en tout lieu. Il avait dit que le Fils de l'homme n'avait nulle part où aller pour se reposer. Et c'est effectivement ce qui se passe. Il n'a pas exagéré les choses. Il les a envoyés partout, sans pouvoir se reposer, partout. Ils ont eu l'occasion de voir qu'ils n'étaient pas établis, pas posés à un endroit. Effectivement, Jésus avait raison de prévenir de cela. La deuxième chose que je note sur cet envoi, c'est que Jésus les envoie devant lui, à des endroits où lui-même devait se rendre. Ses disciples sont envoyés pour préparer sa venue, préparer son passage dans la ville, préparer les gens à l'écoute et à l'accepter. Effectivement, cet envoi est résolument tourné vers l'avenir. Jésus arrive. Il n'est pas à regarder en arrière. Il est tourné vers l'avenir, vers sa venue prochaine. Et tous ceux qui l'envoyaient devaient être prêts à être de passage et à lui laisser la place quand il viendrait. La troisième chose que je note concernant cet envoi, c'est qu'il les envoie deux à deux. Jésus n'envoie pas seul, il en donne un autre. Jésus sait que nous ne sommes pas assez forts seuls. Être deux, ça permet plein de choses. Ça permet d'échanger, de réfléchir ensemble, de se soutenir quand un des deux a un coup de mou, de nous encourager. J'ai pu voir ça dans ma vie professionnelle. Quand on confie une tâche à quelqu'un seul et puis qu'on le laisse faire tout seul, même si c'est quelqu'un de très bon, ça ne marche jamais très bien. Tout seul, on s'épuise, on se perd en route. Il faut aller voir régulièrement, prendre des nouvelles pour motiver et faire que ça avance, même avec les meilleurs. Et puis, les derniers versets du chapitre 9 que nous avons étudiés nous montrent également que les regards que nous avons sur nous-mêmes ne sont pas toujours justes. Et être plusieurs, être au moins deux, ça permet d'avoir un regard extérieur, un vis-à-vis qui peut nous permettre de voir nos insuffisances, de voir quand nous ne sommes pas à la hauteur de l'appel que Jésus nous fait. Richard Gélin, encore lui, dit que la vocation ne génère pas des êtres solitaires, redevables qu'à eux-mêmes ou pleinement suffisants, mais des ouvriers toujours en collaboration et reconnaissant leurs besoins du compagnonnage. Deux à deux, c'est pas beaucoup. À deux, on peut se sentir peu nombreux. On aimerait peut-être être à une bande ou une foule. C'est pas nombreux. Mais en même temps, Jésus ne nous envoie pas seuls. À ceux qui avaient du mal à quitter leurs anciennes solidarités, quitter leur famille, Jésus leur donne quelqu'un pour aller avec eux. Un frère, une sœur. Et qu'est-ce que ça donne, cet appel? J'aimerais regarder un peu plus loin que notre texte au verset 17. Les 72 revinrent avec joie. Vous pourrez lire la suite, mais je retiens ça. Les 72 revinrent avec joie. Ceux qui ont choisi de suivre Jésus n'ont pas été déçus. Ils ont fait de grandes choses avec le pouvoir que Jésus leur a donné. Mais surtout, ils ont pu répondre à son appel et le servir. Ils ont répondu à son appel et ils n'ont pas été déçus. Que dire de ce texte aujourd'hui? Comment passer de cette situation avec Jésus à cette situation aujourd'hui? Je crois que ce texte est assez universel. Comme je le disais, quand on lit l'Évangile, très rapidement, on entend l'appel de Jésus. Jésus n'a pas fait plusieurs appels. Des appels à devenir missionnaire, à devenir pasteur, à devenir ancien, à devenir responsable au sein de l'Église, et puis des appels à devenir simple chrétien. Jésus a fait un seul appel. Il a dit, suis-moi. Ailleurs, dans l'Évangile de Luc, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas différents niveaux. Il y a un seul niveau. Suis-moi. Alors, il y a une différence de ton. Tout le monde ne sait pas faire la même chose et Jésus ne nous demande pas de faire la même chose. Mais l'appel à le suivre est le même pour tout le monde et la réponse attendue est la même pour tout le monde. Un oui inconditionnel. Quels que soient nos dons, nous recevons le même appel. Un appel à préparer sa venue. faire des nations des disciples, à les enseigner, à les baptiser. Un appel à aller partout, à aller là où il nous envoie, et non là où on a prévu d'aller. Un appel à être disponible, complètement disponible. Mais en même temps, il nous invite à y aller à plusieurs, avec les autres que Dieu a choisis pour nous aider et nous fortifier. Et en plus de cela, ce qu'il ne leur a pas dit au milieu de son ministère et qu'il a dit au moment où il est monté au ciel, en plus de cela, Jésus a promis d'être avec celui qui le suit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au moment de conclure, j'aimerais que nous retenions cette exigence de Jésus. Il ne suffit pas de vouloir suivre Jésus. Il faut le faire. Il faut être disponible, prêt à le suivre où il nous envoie. Être prêt à laisser ceux qui nous aiment pour le suivre, à être prêt à partir sans regret, sans nous retourner. C'est exigeant et en même temps, c'est chouette. Comme les 72 qui sont revenus heureux de leur mission. Nous aussi, nous sommes heureux de pouvoir le servir. Nous ne sommes pas meilleurs que les trois hommes que nous avons vus là. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Nous n'avons pas toujours mesuré ce que Jésus nous demande. Nous avons des choses qui nous retiennent. Mais Jésus fait malgré tout la grâce de l'envoyer. Jésus t'appelle. Toi aussi. C'est un choix de vie radical. Que répondras-tu ?